Chers auditeurs, nous parlerons aujourd'hui de quelques aspects de la vie chrétienne dans le diocèse de Bayonne en ce XIIe siècle. La vicomté du Labourg est peuplée uniquement de chrétiens rattachés à l'Église catholique en ce XIIe siècle. La séparation de l'Église et de l'État n'existe pas. À peine peut-on parler de distinction entre le civil et le religieux. Le vicomte d'un côté, l'évêque de l'autre, ont conscience d'avoir en charge l'ensemble des besoins des mêmes personnes. La vie civile et la vie religieuse s'identifient, pour ainsi dire, sur le plan personnel comme sur le plan social. Et l'obligation essentielle du labourdin, avec le paiement des impôts bien entendu, et la participation à la messe dominicale. Il le fait consciencieusement, sans nul doute, mais est-ce qu'il y communie? Il ne doit guère se différencier du reste du monde catholique. En 1215, un concile devra faire obligation à tous les chrétiens de communier au moins une fois dans l'année à Pâques. Mais ce qu'il n'oublie pas, le labourdin, quand il va à la messe, et même en dehors de la messe, c'est d'apporter son offrande à l'Église, le plus souvent d'ailleurs en nature. Et il n'oublie pas de le déposer sur l'autel à tout moment de la célébration. Et cet usage survivra à tous les changements, et plus tard, les évêques devront intervenir parce qu'il entraînait des désordres. Ce qui préoccupe le chrétien labourdin, c'est bien sûr la mort et l'au-delà. D'où l'importance que prennent à ce moment-là les rites funéraires, ceux qu'introduit l'Église, mais également ceux que la tradition a déjà établis. Mais c'est après la mort, il faut le préparer. Et c'est la grande préoccupation du fidèle. Nous avons évoqué le mouvement de restitution de biens ecclésiastiques et de dîmes qui a marqué ce XIIe siècle dans la mouvance de la réforme lancée à Rome et imposée surtout par le pape Grégoire VII. Il est difficile de faire la part des retours aux propriétaires légitimes et celle des dons spontanés car ceux-ci existent et nombreux sont les legs de biens meubles et immeubles qu'on fait à l'Église. Quelle que soit la raison de la démarche, la fin recherchée de façon explicite est toujours le salut de l'âme, auquel s'ajoute parfois celui du corps. Ainsi, en 1125, l'évêque Raymond de Martre et le vicomte du Labour, tous deux, vont établir une confrérie en faveur des œuvres de l'Église de Bayonne, confrérie dont feront partie les fidèles du Labour et de l'Arbérou. On dirait que Cise et Baïgory sont un peu laissés de côté. Le profit spirituel que pourraient en retirer les membres était précisément le salut de leur corps et de leurs âmes, et le bénéfice en était étendu à leurs fils, à leurs filles et à tous les descendants. Quelques années plus tard, c'est encore le salut de leur âme qui inquiète les hommes du Labour et de l'Arbérou. À leur mort, que devaient-ils léguer à l'Église de Bayonne pour être assurés de leur destinée éternelle? Ce n'est pas l'évêque, mais c'est le vicomte qui va répondre à la question qui les tourmente. Ce dernier, donc le vicomte, va décider, en présence de Fortaner, évêque de Bayonne et de tous les chanoines, après avoir pris conseil des barons et reçu leur assentiment, ainsi que celui de tout le peuple, il va décider que chacun donnerait au prorata de ses moyens et selon un barème établi à l'avance, en général quelques bêtes de ses troupeaux. Et à la mort du donateur, à la demande des parents et des amis du défunt, l'évêque devra se rendre à l'église où gît le défunt, pour y célébrer la messe. C'est là sans doute une évocation de l'habitude prise d'enterrer les morts à l'intérieur de l'église. Sinon, s'il ne peut pas aller à l'église où gît le défunt, il devra dire la messe à la cathédrale. Un autre point que nous allons aborder, c'est le mariage. Le mariage était un événement important dans la vie des fidèles, bien sûr, avec un caractère social très marqué au Pays Basque. Ce XIIe siècle est le temps où l'Église travaille à fixer et à faire respecter un droit matrimonial autour du mariage chrétien, dont la caractéristique principale était et encore bien sûr l'indissolubilité. La loi de Rome, comme on l'appelait, mit du temps à entrer dans les mœurs. C'est qu'il existait un droit coutumier qui régissait la célébration du mariage au Labourd et en Basse-Navarre. Ce droit coutumier dépendait étroitement du droit successoral. Il n'existait pratiquement pas sans lui. La coutume du Labourd avait établi les règles relatives à la transmission du patrimoine familial et à sa conservation. On comprend que dans cette perspective, l'héritier qui voulait convoler en juste noces ait eu besoin de la permission des propriétaires du domaine, c'est-à-dire de ses parents, d'autant plus qu'en se mariant, il devenait co-seigneur, nauchi gasté, pour la moitié des biens. L'Église va toujours suspecter et même combattre la nécessité de l'autorisation parentale, soupçonnée d'entraver une autre exigence du mariage chrétien, la liberté des deux futurs conjoints. En Navarre, c'est au temps du roi Sanche le Sage que va s'introduire la loi de Rome, c'est-à-dire la forme canonique du mariage, celle que nous connaissons. Le simple échange des consentements et la bénédiction nuptiale donnée à l'Église constituaient cette loi de Rome. Mais le conseil du roi Sanche le Sage reconnut que le mariage coutumier continuerait à être valable en donnant, selon la tradition, les arrhes et les cautions, selon la tradition et surtout selon le fort. La Navarre avait également intégré dans son fort une coutume beaucoup plus ancienne qu'on appelait la baraganie, qui était, pour faire bref, une forme de mariage qui n'avait pas les mêmes effets que le mariage normal et qu'on utilisait quand ce dernier, quand le mariage normal, ne pouvait pas se célébrer. Il est probable que la coutume du Pays Basque, que les évêques vont dénoncer plus tard, et qui consistait à admettre la cohabitation pour le jeune couple qui ne pouvait obtenir l'autorisation des parents, avec quelques liens avec l'antique institution de la baraganie. Nous aborderons la prochaine fois un autre aspect de la vie du diocèse, celui de la vie consacrée, et également celui du pèlerinage de Compostelle.